Vous écoutez, on lit pour vous.
Pour éviter la désertification des rues. Un texte de Jeanne Millet, paru le 13 février 2024 dans La Presse. Les auteurs de cette lettre s'adressent au gouvernement québécois afin de limiter l'abattage d'arbres au nom de la protection du réseau de distribution d'Hydro-Québec. Chercheuse en architecture des arbres et chargée de cours à l'Université de Montréal, et 15 co-signataires. En exprimant clairement son intention d'abattre les arbres à proximité de son réseau de distribution, Hydro-Québec reconnaît l'échec de ses interventions de taille effectuées sur les arbres. Cet échec est visible depuis des décennies par la forme désarticulée des arbres, leur grande fragilité, et les coûts élevés d'entretien qui augmentent d'année en année, de 40 millions en 1998 à 125 millions en 2023. Les changements climatiques révèlent encore plus la fragilité des arbres trop intensément taillés. L'abattage, comme ultime solution, annonce la désertification des rues en milieu urbain et périurbain, une catastrophe environnementale majeure en totale contradiction avec le besoin de verdissement des zones habitées. Selon Hydro-Québec, le problème vient des arbres qui ont été plantés au mauvais endroit. Il semble plutôt que le problème vienne d'une erreur d'intervention. En effet, des recherches menées par l'auteur principal de ces lignes, financées par Hydro-Québec et la Ville de Montréal, 1998-2009, ont démontré que la manière d'intervenir d'Hydro-Québec augmentait le problème de concurrence des arbres avec les fils électriques. Les tailles pratiquées sur les arbres provoquent des repousses fortes et indésirables qui nécessitent des élagages tous les 3 à 5 ans. Selon la logique adoptée par Hydro-Québec, plus les arbres sont tenus loin des fils par une zone de dégagement aux dimensions croissantes au fil des ans, plus ils mettent de temps à menacer de nouveau les fils par leur croissance. Les recherches indiquent plutôt que c'est l'inverse qui se produit. Plus la taille des arbres est forte, plus ils réagissent fortement et plus ils poussent rapidement en direction des fils, en plus d'être fragilisés, devenant dangereux. Agents protecteurs. Les arbres ont la capacité de contourner naturellement et efficacement des fils. Arbres sous tension, édition Multimonde 2018. Leur permettre d'établir une charpente forte et stable qui ne ploie pas facilement sous le vent ferait d'eux des agents protecteurs plutôt que dangereux et demanderait moins d'interventions à court, moyen et long terme. Les branches et les arbres qui sont tombés sur les fils électriques lors des événements météo extrêmes des dernières années ont soulevé l'indignation publique, avec raison. Et toujours la même conclusion de la part d'Hydro-Québec, il faut tailler plus. Bien que ces interventions soient problématiques et coûteuses, Hydro-Québec maintient l'application d'une zone de dégagement qui, depuis des décennies, mène à l'abattage précoce des arbres devenus dangereux. La désertification des rues où passe le réseau de distribution n'est pas acceptable. Le besoin d'arbres à grand déploiement en zone habitée est en croissance pour répondre aux besoins de régulation du climat, réduction de la force des vents, de la pollution et des risques d'inondation, captation du carbone, etc., et pour favoriser une meilleure qualité de vie, évitement des îlots de chaleur, réduction du bruit, etc., sans compter les enjeux de santé publique. Une nouvelle approche des arbres s'impose, s'appuyant sur les connaissances du mode de développement des arbres et la recommandation de tailler le moins possible les arbres, inscrite dans les normes d'entretien arboricole du Bureau de normalisation du Québec. La révision des règles d'intervention sur les arbres ne doit pas impliquer uniquement Hydro-Québec, qui a un biais en défaveur des arbres y compris dans le cadre de sa chaire de recherche sur le contrôle de la croissance des arbres. Le gouvernement du Québec doit créer un comité d'experts multidisciplinaires et indépendants qui analyserait la problématique des arbres à proximité du réseau de distribution à la lumière des connaissances du mode de développement des arbres. Il aurait comme mandat d'identifier les balises à respecter pour l'entretien et la sauvegarde des arbres, tout en augmentant la sécurité à proximité du réseau et en diminuant les coûts d'entretien. Les recommandations du comité pourraient servir de base pour un projet de loi qui viendrait encadrer les interventions d'Hydro-Québec sur les arbres à proximité du réseau de distribution. Il y a urgence d'agir. C'était « Pour éviter la désertification des rues », un texte de Jeanne Millet, paru le 13 février 2024 dans La Presse. Les auteurs de cette lettre s'adressent au gouvernement québécois afin de limiter l'abattage d'arbres au nom de la protection du réseau de distribution d'Hydro-Québec.
La place des femmes en art visuel aujourd'hui, pas si rose. Un texte d'Amélie Revers, paru le 7 mars 2024 dans Le Devoir. En général, les gens ont l'impression que la place de la femme dans l'art visuel est un « done deal », que c'est réglé. Le chemin n'est pourtant pas pavé, dit d'emblée Mylène Lachance-Paquin, fondatrice et directrice de Poste Invisible, la jeune biennale qui revient cette année avec une deuxième édition sur le thème « Territoires frontières » dans le but de discuter des enjeux qui concernent les femmes dans les arts visuels. Nous sommes une biennale ouverte. On dit des chiffres, on dit des faits, on dit les choses pour qu'elles s'améliorent, ajoute-t-elle. Par exemple, selon ses calculs, car il n'existe pas de statistiques officielles, il y a 2 ans, on comptait 34% de femmes parmi les artistes représentés par les galeries membres de l'Association des galeries d'art contemporain, tandis qu'aujourd'hui, cette proportion atteint 42%. Globalement, ça va bien mieux et c'est important, souligne Mylène Lachance-Paquin, qui ne tarde pas à tempérer son propos. Il y a des galeries où les chiffres ne bougent pas du tout. Les choses peuvent vraiment être stagnantes. Avec Poste Invisible, elle espère ainsi responsabiliser les professionnels du milieu afin que plus d'efforts soient faits pour l'égalité. Plus on en parle, plus les gens font attention, soutient la directrice de la biennale. De son côté, Saude Carrier, directrice de la galerie McBride Contemporain, s'étonne de la création tardive d'un tel événement au Québec. Il a fallu attendre toutes ces années et que Mylène réfléchisse à tout ça. Il y avait pourtant des biennales pour plein de choses, mais pas pour les femmes, note-t-elle. Alors que McBride Contemporain participe à Poste Invisible pour la première fois pour l'édition 2024, Saude Carrier souhaite en profiter pour s'arrêter un instant et faire le point sur la situation. On veut regarder avec qui on travaille, notre ratio. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'il y a des manques, des biais, demande-t-elle, tout en soulignant le riche écosystème des arts visuels au Québec. Et de poursuivre, au Belgo, où se trouve la galerie, on est 3 directrices. Pour Mylène Lachance-Paquin, il est ainsi essentiel de porter attention aux institutions afin de crédibiliser les pratiques artistiques actuelles. Le musée a un rôle à jouer parce que, quand il s'intéresse à une artiste, la curiosité à son égard va augmenter. Mais sur ce plan, le réseau muséal peut certainement faire mieux. À la tête des 4 grands musées du Québec, on ne trouve que des hommes blancs, fait-elle remarquer. Les choses bougent, mais très lentement. L'artiste émergente Caroline Douville, dont les œuvres sont actuellement présentées à l'Espace Maurice dans le cadre de l'exposition Hypnos, salue cette volonté des galeries et des musées d'ouvrir en grand leurs portes aux femmes. Mais quand je pense à mes expériences passées, Je me demande s'il y avait un réel intérêt pour mon art ou s'il n'y avait pas parfois un peu d'hypocrisie dans ce milieu encore dominé par les hommes et qu'on n'est pas là simplement pour cocher des cases, soulève-t-elle. Le milieu des arts visuels québécois doit ainsi rester sur ses gardes et ne pas se reposer sur ses acquis. Cette année, le CALQ, Conseil des arts et des lettres du Québec, et le CAC, Conseil des arts du Canada, n'ont pas cru bon soutenir Poste Invisible, indique Mylène Lachance-Paquin. Donc, même si je vois un véritable engouement de la part des artistes, des galeristes et des conservatrices, je pense que certaines institutions ont souvent l'impression qu'elles ont déjà fait leur devoir. Non, non et non. La directrice de la Biennale ne cache pas ses frustrations à l'égard d'un milieu encore misogyne et surtout qui avance à deux vitesses. La femme plurielle. Quand on parle de la place de la femme dans les arts visuels, Mylène Lachance-Paquin voit grand. Lorsqu'il s'agit de la femme, je pense au sens large, peu importe le corps, car l'enjeu se situe dans les inéquités persistantes, explique-t-elle. Ce n'est pas en mettant un groupe de côté qu'on avance. Pour sa part, Sophie Latouche, directrice associée au volet programmation de la Galerie Pangée, se félicite d'observer une plus grande diversité de genre et d'identité dans les arts visuels québécois. On a toujours été une équipe de femmes qui partage sans doute la même sensibilité avec les artistes femmes et queer. Je pense que notre objectif est de faire reconnaître certaines pratiques qui ne sont pas entendues ou qui sont passées sous silence, mentionne-t-elle. La cinéaste et artiste multidisciplinaire, Caroline Monet, estime quant à elle que, pour changer les formes de représentation et les systèmes, les femmes doivent prendre de plus en plus de place dans le milieu, au même titre que les identités plurielles du Québec. En tant que femme autochtone, j'ai toujours voulu m'affranchir des étiquettes, car ce qui compte, c'est d'être respectée en tant qu'artiste au-delà de mon identité, raconte-t-elle. Sophie Latouche pense, de fait, que des galeries comme Pangée doivent utiliser leurs privilèges et leurs statuts dans une optique d'intersectionnalité et de pluralité des genres et des discours. C'est valable tant pour les artistes avec qui on collabore que dans notre façon de travailler. Nous désirons ne jamais rien tenir pour acquis. Une philosophie qui est devenue en 8 années d'existence la marque de fabrique de Pangée. Ça a participé à notre réputation dans le milieu. On prend des risques, on se présente à l'étranger, on fonce, on a une audace, contrairement à cette force tranquille qu'on associe souvent aux femmes, conclut-elle. La voie est libre et ouverte. C'était la place des femmes en art visuel aujourd'hui, pas si rose, un texte d'Amélie Revert paru le 7 mars 2024 dans Le Devoir.
Les secrets d'un jeûne numérique réussi. Un texte de La Presse Extra Santé, paru le 5 février 2024 dans La Presse. À quand remonte la dernière fois où vous avez passé 24 heures sans regarder l'écran? Sans ordinateur, ni télé, ni téléphone intelligent? Décrocher, même pour une seule journée, vous offre une occasion précieuse de vous consacrer pleinement à vos activités préférées, sans distraction. Voici comment bien préparer un tel jeûne numérique. Qu'est-ce qu'un jeûne numérique? Cette pratique consiste à éteindre tous les appareils technologiques munis d'un écran, téléphone intelligent, tablette, ordinateur, téléviseur, montre intelligente, etc., pendant un certain temps. Une pause d'au moins 24 heures est suggérée pour en ressentir les effets bénéfiques. Mais sa durée exacte demeure à votre entière discrétion. 1. Réservez une journée adéquate à votre pause. Prévoyez votre jeûne numérique un jour qui se révèle pratique et réaliste pour vous et lors duquel une telle pause n'entrera pas en conflit avec vos responsabilités professionnelles et familiales. Le week-end et les vacances s'y prêtent particulièrement bien. 2. prévoyez des activités qui vous plaisent. Utilisez ce moment sans interruption pour vous adonner à ce qui vous procure du plaisir, mais que vous avez rarement le temps de faire. Pourquoi ne pas partir en randonnée, cuisiner un festin gastronomique, jouer à des jeux de société en famille, jardiner, lire des heures durant ou encore flâner dans un nouveau quartier? Assurez-vous de réunir tout ce dont vous aurez besoin une fois que vous serez hors ligne, par exemple, une carte imprimée d'un itinéraire ou des copies de vos recettes. 3. Avisez votre entourage de votre absence. Surtout le cas d'un jeûne numérique prolongé, songez à mettre en place une réponse automatique et un message de boîte vocale afin d'informer vos proches que vous n'êtes pas disponible. La veille du grand jour, vous pourriez aussi annoncer votre intention sur les réseaux sociaux et inviter d'autres gens à vous emboîter le pas. 4. Éteignez tous vos appareils et gardez-les hors de vue. Fermez complètement tous vos équipements électroniques avant d'aller vous coucher. Votre jeûne numérique commencera ainsi dès votre éveil. Rangez votre téléphone intelligent, votre tablette et vos autres petits appareils dans un tiroir ou dans une pièce peu utilisée, de façon à ne leur accorder aucune attention pendant votre déconnexion. 5. Laissez-vous aller et profitez de la journée. Certaines habitudes sont bien ancrées. Vous pourriez donc ressentir un certain inconfort ou une forte envie de consulter votre téléphone en début de journée. Patientez, tout simplement, et ces sentiments devraient s'estomper d'eux-mêmes. Concentrez-vous plutôt sur toutes ces choses géniales que vous avez prévues et savourez-en chaque minute. 6. Accordez-vous un moment d'introspection. Si vous avez rempli votre horaire d'activité physique ou de sortie en agréable compagnie, réservez aussi un moment de détente et de réflexion en fin de journée. Méditez, faites-vous couler un bon bain chaud, écoutez de la musique ou gribouillez dans un livre de coloriage, puis laissez le champ libre à vos pensées. Quelles sont vos premières impressions à la suite de ces quelques heures déconnectées? Comment vous sentez-vous? 7. Reconnectez-vous en douceur. Pendant votre retraite du monde numérique, il est possible que les courriels, les messages et les textos se soient accumulés. Tirez profit de votre pas de recul et, à votre retour, jetez un regard nouveau sur cette montagne d'informations. Qu'est-ce qui est réellement urgent ou important? Qu'est-ce qui mérite votre intérêt? Souhaitez-vous modifier vos habitudes, par exemple en vous désabonnant de certaines listes d'envoi ou en consultant vos courriels à des heures fixes? Il est possible que, petit à petit, vos résolutions et vos bonnes intentions s'estompent et que la technologie sollicite à nouveau trop d'attention de votre côté. Si votre jeûne numérique s'est avéré bénéfique, voyez cela comme une invitation à en planifier un nouveau. C'était « Tous les secrets d'un jeûne numérique réussi », un texte de La Presse, Extra Santé, paru le 5 février 2024 dans La Presse.
Faut-il déneiger moins à Montréal? Un texte de Jeanne Corriveau, paru le 22 janvier 2024 dans Le Devoir. À Montréal, on ne badine pas avec l'hiver. Lorsqu'une tempête s'abat sur la métropole, la ville sort l'artillerie lourde pour faire la guerre aux flocons et s'attaquer aux trottoirs glacés. C'est la course contre la montre pour dégager les trottoirs et les rues et, le plus rapidement possible, faire disparaître cette neige. Mais cette obsession, en plus d'être fort coûteuse, est destructrice pour l'environnement. Devrait-on moins déneiger? Au mois de décembre dernier, une vidéo montrant les grandes manœuvres des souffleuses et de la machinerie lourde dans une rue de Montréal est devenue virale sur Facebook. Les images en accéléré laissaient voir une chorégraphie parfaitement synchronisée d'une grande efficacité. Difficile de ne pas sourire en lisant les commentaires admiratifs d'internautes du monde entier sur la performance des déneigeurs quand on sait qu'à Montréal, les citadins sont prompts à se plaindre de l'entretien des rues et des trottoirs. Les Montréalais s'attendent à ce que la neige ne nuise pas à leur déplacement, soutient l'ancien maire du plateau Mont-Royal, devenu animateur au 98,5, Luc Ferrandez. Les mêmes histoires reviennent constamment de la part de personnes pourtant intelligentes. Selon elles, une rue devrait être comme un corridor d'hôpital ou de centre commercial. N'importe qui, entre l'âge de 6 mois et 99 ans, devrait pouvoir marcher le lendemain d'une tempête de verglas sans aucun problème. Or, les opérations de déneigement sont complexes. Entre le déblaiement, l'épandage de sel et d'abrasifs, le chargement de la neige et les aléas de la météo, la coordination n'est pas toujours aisée. Et ces opérations coûtent cher. En 2023, la facture du déneigement s'est élevée à quelque 245 millions de dollars, indique la ville. Mais cette somme n'inclut pas les frais indirects tels que les dommages causés au mobilier urbain, l'usure des infrastructures souterraines attribuables au sel de voirie et le traitement des eaux usées en lien avec la neige ramassée. Résister aux critiques. Les activités de déneigement sont si coûteuses que, en 2009, Luc Ferrandez avait décrété que, par mesure d'économie, le chargement de la neige serait réduit dans le plateau. Mal lui en prit. C'est peut-être une des crises les plus profondes que j'ai vécues en matière de rejet de mes politiques, relate-t-il. Je marchais dans la rue, je me faisais interpeller par des gens qui me disaient que ça n'avait pas de bon sens, c'était d'une agressivité surprenante. Cela ne l'a toutefois pas empêché d'être réélu à deux reprises, signale-t-il. Tous les élus ont fait les frais du courroux de citoyens contribuables, face aux trottoirs glacés et aux monticules de neige. Mais l'ex-maire de Rosemont-la-Petite-Patrie et chroniqueur au Devoir, François-William Croteau, croit qu'il existe une certaine distorsion entre les exigences des citoyens et l'écho des médias et des réseaux sociaux. Il y a une enflure verbale entre politiciens et journalistes, avance l'ancien élu. Certains médias tombent facilement dans la catastrophe. Est-ce que les Montréalais s'attendent vraiment à autant de services de déneigement? Demande-t-il. Un sondage léger commandé par la Ville de Montréal l'an dernier démontrait que les Montréalais étaient majoritairement satisfaits du déneigement à Montréal, rappelle-t-il. Maire de l'arrondissement de Verdun de 2013 à 2021, Jean-François Parenteau avait hérité du dossier du déneigement en 2017. Il croit qu'il sera difficile de baisser les standards de déneigement. La performance de la ville a beau s'être améliorée au fil des ans, les changements climatiques, qui provoquent des redoux à répétition, compliquent la tâche, souligne-t-il. Il y a eu un hiver où il y a eu des différences de 12 degrés dans la même journée. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Les gens ont des attentes, mais je pense qu'il va falloir arrêter de promettre la lune quand c'est impossible. Il faut être honnête et expliquer la mécanique. Déneiger pour permettre aux voitures de se stationner en bordure de rue sans contrainte est un choix très coûteux, qu'il faut rappeler aux Montréalais, croit Luc Ferrandez, qui doute que les Montréalais soient prêts à sacrifier ce privilège. Nous sommes infantiles, superficiels, exigeants et irréalistes, lance-t-il. Repenser le déneigement. De son côté, François-William Croteau estime que plusieurs aspects du déneigement pourraient être revus. La sécurisation des trottoirs ne saurait être remise en question. Mais peut-être n'est-il pas nécessaire d'être aussi pressé de faire des chargements de neige. La ville lance les opérations de chargement lorsque de 10 à 15 cm de neige sont accumulés au sol. pourquoi ce n'est pas 16 cm ou 20 cm? Et doit-on la charger partout? Ne pourrait-on pas envoyer la neige sur les terrains privés, comme cela se fait dans toutes les banlieues du Québec? Demande-t-il. Sur la chaussée, l'usage de sel et d'abrasifs qui causent d'importants dommages environnementaux et contribuent à la création de nids de poules pourrait être limité aux intersections, selon lui. Jean-François Parenteau juge qu'il serait possible de réduire les coûts du déneigement en planifiant mieux les aménagements urbains en fonction des défis hivernaux. Des saillies de trottoirs et des pistes cyclables, conçues d'abord pour la belle saison, font bondir les coûts du déneigement. Luc Ferrandez n'est pas de cet avis. Ce n'est pas vrai qu'on va faire des trottoirs qui vont ressembler à des pistes d'aéroport parce que c'est plus facile à déneiger. Au contraire, il faut planter des arbres. On ne va pas structurer notre monde en fonction du déneigement, alors qu'on refuse de prendre les vraies décisions qui, elles, auraient un impact sur le déneigement, c'est-à-dire le stationnement sur rue. D'autres villes dans le monde reçoivent beaucoup de neige, mais bien peu en font autant que Montréal, note Olivier Legault, cofondateur du Laboratoire de l'hiver à Montréal. Selon lui, la ville pourrait envisager de charger des quantités moins importantes de neige dans certaines rues, et elle pourrait demander davantage d'implication de la part des citoyens. Il cite le cas de la ville de Sapporo au Japon, qui compte 1,9 million d'habitants et qui reçoit plus de 400 cm de neige, mais également beaucoup de pluie. Ils ont un système de déneigement qui mise beaucoup sur l'implication citoyenne. Les citoyens doivent dégager le trottoir devant leur résidence, comme c'est le cas à Calgary et à Boston. Ici, à Montréal, on est gâté pourri. On va se le dire. Les Montréalais devraient mieux adapter leurs déplacements aux conditions climatiques plutôt que de s'attendre à pouvoir agir comme si la neige n'existait pas, fait valoir François-William Croteau. En 2009, le responsable du déneigement à la ville, Marcel Tremblay, avait suggéré aux Montréalais de se doter de crampons pour circuler sur les trottoirs glissants. La déclaration, perçue comme un aveu d'impuissance, avait fait scandale. Quelques semaines plus tard, son frère, Gérald Tremblay, lui retirait ce dossier des mains. Mais Luc Ferrandez et François-William Croteau s'entendent pour dire que, dans le fond, Marcel Tremblay n'avait pas tort. C'était « Faut-il déneiger moins à Montréal? » Un texte de Jeanne Corriveau, paru le 22 janvier 2024 dans Le Devoir.